Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, l'extrême droite européenne dans le sillage de Donald Trump. Ils se sont réunis à Madrid le week-end dernier pour une vaste démonstration de force, les Patriotes pour l'Europe, le troisième groupe du Parlement européen, qui s'est rangé sous le slogan inspiré de Trump, « Make Europe Great Again ». Méga, nouveau mot d'ordre et étendard pour la droite extrême qui, du Hongrois Viktor Orban à la Française Marine Le Pen, entend bien profiter de la vague provoquée par la victoire du milliardaire américain. Jusqu'où l'extrême droite européenne peut-elle suivre la tornade Trump ? Et de quelle manière les réseaux ultra-conservateurs américains infusent-ils en Europe ? On en parle ce soir avec nos invités. À mes côtés, dans ce studio, le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous depuis Bruxelles, Serge Jomin, professeur d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des États-Unis, spécialiste des relations entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous deux sur RFI. Pour commencer, bien, je vous propose d'écouter Marine Le Pen lors du sommet de Madrid le week-end dernier.
Nous sommes en face d'un véritable basculement mondial. L'ouragan Trump déferle sur les États-Unis, trop longtemps engoncé dans un insupportable et stérilisant politiquement correct. Déjà, des liens se nouent naturellement ou obligatoirement avec l'administration Trump, que ce soit en Amérique du Sud, comme l'Argentine ou le Salvador, comme dans de nombreux pays du monde, et notamment dans les régions en conflit. Tout le monde comprend que quelque chose a changé. De son côté, l'Union européenne semble en état de sidération. Il est vrai que du côté de Bruxelles, tous les voyants sont au rouge.
Voilà pour Marine Le Pen, prête à s'engouffrer dans l'ouragan Trump. Jean-Yves Camus, la victoire de Donald Trump, ça représente un vrai coup d'accélérateur pour toutes les droites extrêmes en Europe.
La victoire de Donald Trump représente d'abord la victoire d'un style. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ces partis s'intéressent beaucoup plus au style de Donald Trump qu'au fond. Le style de Donald Trump, c'est celui d'un homme qui ne recule devant aucune outrance et qui, dès le premier jour de son mandat, signe une centaine de décrets sur le mode « Voyez, ce que je vous ai promis, dès le premier jour, je le mets en application ». Mais une fois qu'on a dit ça, il y a des nuances. Marine Le Pen, d'ailleurs, à Madrid, a expliqué que, économiquement parlant, elle n'était pas sur la même ligne que Donald Trump et le président argentin Milei. Elle a aussi expliqué qu'à un moment donné, même si elle pensait que pour parler à un patriote, c'était les patriotes européens qui étaient les mieux placés, elle fait valoir sa différence. Il y a une chose qu'elle ne peut en aucun cas mettre en œuvre, c'est une radicalisation à la Trump précisément. C'est-à-dire que son processus de normalisation n'étant pas encore terminé, et il ne le sera qu'à la présidentielle de 2027, elle ne peut pas coller aux attitudes et aux outrances de Donald Trump. C'est pour ça que tout en tenant le discours que nous venons d'entendre, elle a fait part du fait qu'elle n'avait pas le même style et que d'autre part, ce qui était bon pour les États-Unis, selon Donald Trump, ne l'était pas nécessairement pour la France. Parce que si Donald Trump impose, par exemple, aux produits français des tarifs douaniers, comment fait Marine Le Pen ensuite pour se rendre dans une circonscription où l'industrie viticole, par exemple, ou les produits du luxe viennent d'en prendre un coup avec des emplois qui ont été supprimés, comment explique-t-elle qu'elle colle au président américain ?
On comprend mieux les réserves de Marine Le Pen, mais plus largement pour les leaders populistes et nationalistes. Est-ce que la victoire de Donald Trump offre une véritable caisse de résonance à leur discours sur l'immigration, contre le wokisme, le rejet des élites ? Ça a un peu normalisé ce discours-là en Europe également ?
On va dire ça va donner une légitimité supplémentaire aux attaques que l'ensemble de ces partis font depuis bien avant que Donald Trump ne brique son second mandat. Mais il faut bien voir aussi que dans ce panel de partis qui étaient rassemblés à Madrid, il y en a qui ont leur diplomatie propre. Il y a des gens, notamment, dont on parle peu, qui sont les Espagnols de Vox, organisateurs de ce meeting. Ils ont une fondation qui s'appelle Disenso et qui bénéficie, à hauteur de leurs succès électoraux, d'un financement de l'État espagnol. Et cette fondation, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle établit des liens, non pas directement avec Donald Trump, mais avec le monde hispanophone, avec tout ce qui va du Mexique à l'Argentine. Elle réunit donc le président salvadorien Bukele, auquel Marine Le Pen faisait allusion, Javier Milei, le fils Bolsonaro, des politiciens de droite, on parlait tout à l'heure du Guatemala, l'ancien président guatémaltèque Jean Matei, et elle a fixé un cap géographique à son action. L'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. De son côté, Viktor Orban, tout en étant admiratif envers Donald Trump, développe aussi ses propres réseaux d'influence, par exemple en Europe centrale. Je reviens de Serbie. En Serbie, les intellectuels de tous bords, j'étais invité par des libéraux, vont souvent en Hongrie où ils se confrontent alors avec l'Institut du Danube, dont le partenaire américain est la Heritage Foundation, qui joue un rôle capital. Il y a des think tanks proches du pouvoir hongrois qui travaillent l'ensemble de la région, la Serbie, la Slovénie, par exemple, et qui développe un discours qui s'inspire de Trump, mais qui parle quand même beaucoup plus à l'Europe.
Serge Aumin, l'emprunt du slogan de Trump, rebaptisé MEGA, Make Europe Great Again, ça peut devenir un slogan porteur pour l'extrême droite européenne. Autrement dit, est-ce que ce succès américain peut rejaillir en Europe, à votre sens ?
Alors, oui, en partie, dans le sens où on a entendu ces derniers jours, Viktor Orban dire « la tornade Trump a changé le monde en deux semaines, nous étions les hérétiques hier, aujourd'hui nous sommes mainstream ». Il y a là quelque chose d'important et on entendait dans votre reportage l'enthousiasme de Marine Le Pen et ce n'est pas par hasard. C'est parce que ce qui s'est passé aux États-Unis a marqué les esprits dans le monde entier et notamment au niveau de l'extrême droite. Et donc ça, c'est un élément très important. Comme le disait votre invité, effectivement, il y a une question de style. Il y a aussi une question, je dirais, de volonté de médiatisation. Et donc, dans l'esprit de Donald Trump, il faut surtout marquer les esprits. Et marquer les esprits, c'est bien sûr les marquer aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde. Pour un point sur ce qui a été dit par rapport à Marine Le Pen, entre Marine Le Pen et Trump, il est clair que leurs intérêts ne sont pas les mêmes parce que Marine Le Pen développe une stratégie de normalisation de son discours, alors que la particularité de Donald Trump a été depuis le début, depuis la première primaire en 2016, ça a été de prendre des positions très extrêmes et généralement la plupart des politologues savent qu'ensuite lorsque on passe des primaires à l'élection nationale, eh bien on modère un petit peu son discours. Trump ne l'a jamais fait et donc c'est aussi ce qui le distingue d'un certain nombre de mouvements d'extrême droite. Pour venir à votre question, le mot méga, alors c'est évidemment quelque chose que tout le monde aime bien parce que ça fait un slogan qui passe bien. Mais globalement, il faut tout de même bien reconnaître que, comme ça a été dit, les différents partis d'extrême droite ont des positions souvent différentes sur toute une série de plans. Certes, qu'on parle de l'immigration, le rejet du pacte vert, la souveraineté nationale, etc., et le rejet du wokisme, oui, ce sont des éléments qui les réunissent. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de différences entre ces partis et on n'est pas encore au moment où on aura, je dirais, une grande internationale de l'extrême droite.
Jean-Yves Camus, le modèle de Trump pourrait pas se reproduire à l'identique en Europe ?
Non, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a essayé de le faire, il s'appelle toujours Steve Bannon, qui a débarqué il y a quelques années, à l'époque du premier mandat de Donald Trump, avec une approche très conquérante qui consistait à dire à Marine Le Pen et aux autres partis réunis à Madrid, écoutez, je vais vous apprendre comment on va faire une fondation qui va vous servir de think tank et qui va vous permettre de booster vos succès électoraux. Alors, première chose, quand Steve Bannon est arrivé, il y a déjà un certain nombre de ses partis qui connaissaient le succès électoral. Marine Le Pen en France, le Vlaams Belang dans la partie néerlandophone de la Belgique, déjà un petit peu l'AFD, le FPÖ autrichien qui avait déjà participé au pouvoir. Bref, ces gens se sont dit au bout d'un moment, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Il est en train d'essayer de nous expliquer qu'il va nous apprendre à faire de la politique. On sait très bien faire nous-mêmes parce qu'on connaît les ingrédients nationaux de notre succès. Et puis, ce que n'avait pas vu Steve Bannon et ce que ne voit peut-être pas ses successeurs, c'est qu'on ne finance pas de la même manière une campagne politique aux États-Unis et en France. Il y a un plafonnement dans la plupart des pays européens, notamment sur les dons qui viennent de l'étranger. Passé un certain stade, si vous voulez, si interférence financière il y a, ça ne va pas passer inaperçu. Enfin, il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup, c'est que Donald Trump sert de modèle, mais qu'au fond, on a l'impression que tout ça, c'est une période de décompensation. Je m'explique. Une période de décompensation comme quand vous venez de subir un choc. C'est-à-dire que la divine surprise est arrivée, Donald Trump, l'outsider, le banni, le méchant, a réussi à gagner haut la main la présidentielle américaine. Alors, évidemment, tous ces gens qui se considèrent comme des pestiférés, et qui des fois le sont d'ailleurs, se disent, mais après tout, on n'est plus seul. On a quelqu'un qui est à la tête de la première puissance mondiale et qui a réussi aussi à déjouer alors, le politiquement correct, les forces diaboliques du mondialisme, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, la connaissance que ces gens ont du conservatisme américain, il faudrait d'ailleurs discuter pour savoir ce qu'est Donald Trump par rapport au conservatisme traditionnel américain, elle est nulle. Est-ce qu'ils ont lu Rod Dreher, qui travaille avec l'Institut du Danube à Budapest? Est-ce qu'ils ont lu Patrick Deneen, qui est à mon avis le plus intéressant des penseurs conservateurs, qui est passé lui aussi par Budapest? Est-ce qu'ils lisent Gladden Papin, qui lui aussi enseigne de temps en temps à Budapest? Non. Donc au fond, on a l'impression que ils prennent Donald Trump, qui n'a pas un fond idéologique extrêmement puissant, c'est le moins qu'on puisse dire, mais que l'extraordinaire fourmillement intellectuel du conservatisme américain, ça leur est finalement assez égal, parce que ça ne peut rien déclencher en termes électoraux.
Serge Joma, on entendait à l'instant Jean-Yves Camus qui nous parlait des efforts, il y a quelques années maintenant, de Steve Bannon, auprès des mouvements populistes européens. Désormais, c'est Kevin Roberts, c'est le président du think tank The Heritage Foundation. On dit que c'est l'usine idéologique de la nouvelle administration américaine. Et il était là, à Madrid, la veille du sommet des Patriotes. Qu'est-ce qu'on sait sur cette manière dont les réseaux ultra-conservateurs américains infusent sur les partis européens?
Oui, alors ce qui est important, c'est de rappeler que l'Heritage Foundation, c'est une sorte de think tank, comme vous l'avez dit, un laboratoire d'idées qui existe depuis assez longtemps. En fait, elle a été fondée en 1973 et elle a joué un rôle important, mais je dirais que dans le grand public, on n'en a pas entendu beaucoup parler, un petit peu sous l'administration Reagan. Et là, au moment des dernières élections présidentielles, il y a ce projet assez copieux, dans le sens où c'est près de 900 pages, et Donald Trump a dit qu'il n'avait jamais eu le temps de lire, et que donc il a même essayé de se distancer un tout petit peu de ce qui se trouvait dans ce projet, alors que en réalité, le think tank est composé de personnes qui étaient proches de lui et qui ont lancé un certain nombre de ses idées. Et donc effectivement, on sent crois qu'il y a une volonté assez forte des membres de ce think tank d'influencer la politique américaine, d'influencer également ce qui se passe en Europe. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on a eu Steve Bannon qui a essayé sans grand succès finalement de fédérer les extrêmes droites. On en avait beaucoup parlé à l'époque. La particularité maintenant, c'est que évidemment, la personne qui joue un rôle de plus en plus important, c'est Elon Musk, qui a comme différence par rapport à Steve Bannon, c'est qu'il est richissime et que donc il peut investir, perdre quelques millions de dollars sans difficulté en soutenant l'un ou l'autre candidat. Et puis surtout, il possède évidemment ce fameux réseau X qui devient un élément essentiel dans la diffusion des informations et qui joue un rôle très important dans le soutien au mouvement d'extrême droite. Il faut savoir que Elon Musk s'approvisionne en quelque sorte, se nourrit de toute une série d'éléments qui sont diffusés, notamment par des comptes d'extrême droite sur X, des comptes européens, et ça façonne son regard sur l'Europe, et puis il rediffuse lui-même un certain nombre de choses. Et donc le fait, par rapport à Bannon, aujourd'hui on a quelqu'un de riche qui a un réseau vraiment très important et qui est aussi en mesure de rencontrer un certain nombre de dirigeants européens. Pensons, c'est le grand ami de Mélanie, on l'a vu également avec Viktor Orban, et d'ailleurs les personnes ne savent jamais exactement à qui il parle, s'il parle à un représentant de l'administration américaine, au patron de X ou au patron de Tesla ou au meilleur ami de Donald Trump. Et donc tous ces éléments font qu'il joue un rôle vraiment très important pour le moment, et on va voir ce qui va se passer. Enfin, moi, j'attends très clairement ce qui va se passer lors des élections allemandes, où on va voir si l'AFD réussit vraiment à gagner, enfin, à jouer un rôle important lors de ces élections, et si le soutien de Elon Musk pourra lui être utile. Ce sera une sorte de crash test, finalement.
Jean-Yves Camus, Elon Musk a vraiment l'Europe dans le viseur. On le disait, hein, il soutient l'extrême droite allemande, l'AFD. On est maintenant à seulement 2 semaines des élections allemandes. C'est le premier, dit-on, domino européen visé par Musk, avant peut-être quoi, la Grande-Bretagne ?
C'est avant tout le premier domino visé parce que c'est le pays où existe le tabou le plus fort. C'est-à-dire que si, en Allemagne, l'AFD remportait non seulement un succès électoral qui le ferait passer en tête devant la CDU, et qu'elle arrivait à conclure avec la CDU, donc avec les conservateurs mainstream, on va dire, un accord de gouvernement, ce serait, compte tenu du passé très spécifique de l'Allemagne, un signal d'une puissance inimaginable. La CDU, pour l'instant, se défend de vouloir passer un tel accord, et à mon avis, elle ne le fera pas, parce que on a vu la taille des manifestations qui, plusieurs week-ends de suite, se sont ébranlées en Allemagne contre, précisément, la montée de l'AFD, parce que le signal donné en termes de politique étrangère serait absolument désastreux. Mais c'est pour ça qu'en fait Elon Musk vise principalement l'Allemagne, en essayant d'expliquer, lors de la fameuse interview avec Alice Weidel qu'il a diffusée sur X, qu'est-ce qu'il a fait finalement. C'est, le cœur de l'interview, c'était quoi? C'est non, vous n'êtes pas des nazis.
Donc c'est un danger. Donc,
c'est un danger.
Que peut faire, en quelques mots, alors je sais bien, on arrive au terme de cette émission, en quelques mots, que peut faire l'Europe? Quelle doit être la réaction européenne face à ce bras armé d'Elon Musk et de la puissance de Twitter?
On ne peut pas à la fois vouloir mettre les gaz sur l'intelligence artificielle et interdire X en Europe.
Merci, ce sera le mot de la fin. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, co-directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Merci également à Serge Jomain, professeur d'histoire à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des relations entre l'Europe et les États-Unis. Merci.